France Inter. Le 7-9. Intervenir.
La vitesse, l'alcool au volant, le téléphone portable en conduisant, on en parle donc jusqu'à 9h. Quelles mesures faut-il prendre pour faire à nouveau baisser les chiffres de la mortalité routière? On en parle avec Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière, avec Karine Bécard qui vous interrogera dans quelques secondes, avec les questions des auditeurs qui patientent au standard de France Inter, et avec Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes, qui nous appelle également ce matin. Bonjour monsieur Quérault.
Oui, bonjour.
Vous avez entendu les arguments de Chantal Perrichon tout à l'heure sur le passage à 80 km/h, passage probable. Édouard Philippe a dit il y a quelques jours qu'il y était favorable à titre personnel. Vous avez entendu ces arguments. Quelle est votre réponse ce matin?
Ben écoutez, j'écoute les arguments de Madame Perrichon depuis des années, qui sont toujours les mêmes. Alors, je vais vous dire que les automobilistes, comme 3 Français sur 4, ne veulent pas de cette mesure parce qu'ils ne la comprennent pas. Les gens aujourd'hui sont informés. Ils savent que dans les pays qui nous entourent, la règle est 90 et même plus pour l'Allemagne, puisqu'on y roule à 100 sur les routes hors autoroute, et en Angleterre à 97, alors que l'Angleterre, par exemple, est pratiquement le meilleur élève de la classe en Europe. Donc, vous voyez bien que cette mesure, qui est présentée comme la seule mesure, ne va pas faire changer les choses. Si on regarde l'expérimentation qui a été faite en France, cette expérimentation demandée par Monsieur Cazeneuve et qui a été en place pendant 2 ans, nous n'avons absolument pas les chiffres. Et nous avons été voir justement en Haute-Saône la portion qui a été mise à 80 km/h. Nous avons interrogé les riverains et tous les riverains nous disent c'est pire qu'avant, puisque finalement on a élargi la route, on a mis à 80, les gens comprennent pas, les camions doublent les voitures, il y a plus d'accidents. C'est pour ça qu'on n'a pas eu les chiffres. Si les chiffres avaient été bons, on les aurait eu. Vous voyez, donc cette mesure qu'on a accrochée comme un totem, qu'on présente comme avec un grand renfort de communication pour dire on va faire quelque chose, ne va pas résoudre les problèmes.
Un totem, Chantal Perrichon.
Bien, ben écoutez, c'est un condensé de tout ce que j'entends moi également depuis plusieurs années. Hein. Vous vous doutez que c'est toujours tête contre tête, front contre front. Mais hélas, ce que l'on peut déplorer, c'est que nous avons la faiblesse de travailler avec des experts. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nous qui produisons des théories sur la sécurité routière. Nous regardons ce qu'il en est et nous travaillons avec eux. Lorsque Monsieur Quérault dit que les Français ne comprennent pas, il a raison. Encore faut-il leur expliquer. Depuis des années, le gouvernement ne lutte pas contre la désinformation, les fake news qui sont produits par les réseaux sociaux. Et si je prends un exemple précis, regardez ce qu'il en est de l'Espagne. L'Espagne, on dit toujours, ce sont des latins, ils n'acceptent rien. Lorsqu'il y a eu la mise en place du permis à points en 2006, c'était assez tardif en quelque sorte, eh bien il y a eu des campagnes de communication basées sur l'information. Tous les jours, le gouvernement espagnol apprenait aux Espagnols pourquoi le permis à points était absolument nécessaire. Et lorsque le 1er juillet 2006, le permis à points a été mis en place, eh bien, l'immense majorité des Espagnols, presque 70% des Espagnols, étaient pour. Cela a duré des mois et des mois ensuite. Si vous ne parlez pas au cerveau des Français, si vous les méprisez, si vous ne leur donnez pas de quoi réfléchir, il n'y a aucune raison pour qu'ils acceptent des contraintes. Je suis la première à accepter une contrainte lorsqu'elle m'a été expliquée. Et bien évidemment, il sera important de voir d'accompagner cette mesure du 80 km/h, car nous verrons que si la mesure est bonne, et elle est bonne, puisqu'il y a cette fameuse modélisation de Nielsen qui est si décriée par le lobby de la vitesse.
Alors la modélisation, on va le préciser pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes des questions de sécurité routière, c'est de dire que quand on baisse la vitesse mécaniquement, quasiment, le nombre d'accidents et de morts diminue. J'ai bien résumé?
Vous avez bien résumé. Bon. Quand vous la baissez de 1%, vous avez 4% de tués en moins. Alors, Monsieur Quérault fait partie des gens qui disent « Ah oh oui, mais Nielsen, c'est vieux, 1980... »
C'est une étude qui remonte au début des années 80, oui, à l'époque, par exemple. Mais... je vais donner la parole à Daniel Quérault, il va donner ses arguments lui-même, non, plutôt que vous le citiez.
Je voulais
Chantal
terminer
oui.
En disant que cette étude qui est si décriée, puisqu'elle remonte à 1982, il y a eu une méta-analyse faite en 2009 par Rune Helwig qui portait sur 115 études internationales. C'est dire si cette étude de 1982 était unique. Non, elle a été vérifiée. Il s'agit d'une loi empirique, d'une modélisation qui a donc été vérifiée avec 115 études internationales.
Daniel Quérault, pour clore, si vous voulez bien, ce débat sur les 80 km/h, est-ce que vous avez encore un espoir aujourd'hui de convaincre le gouvernement d'y renoncer alors qu'on sent bien, visiblement, c'est dans les tuyaux?
Je n'en sais rien, mais si vous voulez, je remarque quand même qu'en Espagne, on roule à 90 km/h sur les routes hors autoroute. Les gens comprennent d'ailleurs la modulation des vitesses, ils ne comprennent pas la généralisation. Aujourd'hui, quand vous avez une route droite, que vous mettez à 80, qu'il n'y a personne autour de vous, comment voulez-vous respecter ? On a regardé au Danemark, ils ont fait le test de passer de 80 à 90, parce qu'ils se sont aperçus que sur les routes à 80, il y avait très peu de gens qui respectaient la limitation de
vitesse. On en a parlé tout à l'heure.
Voilà, mais moi je veux bien, mais on parle du modèle de Nielsen, on regarde beaucoup les faits, nous, les formules mathématiques, ça nous intéresse peu, puisque finalement on s'est aperçu que le modèle de Nielsen, il y a très peu de pays qui en parlent. Il n'y a qu'en France qu'on en parle beaucoup, ça a permis de justifier l'implantation de radars, on continue d'implanter des radars, on continue à lutter contre la vitesse, malheureusement la sécurité routière ne s'améliore pas. Donc il faut s'attaquer à toutes les causes, l'alcool, les Anglais ont bien réussi, nous on n'a toujours pas réussi, il y a la drogue, il y a les distractions au volant, donc tant qu'on n'aura qu'une cause à porter au devant de nous, on s'attaquera pas vraiment aux autres. C'est à toutes les causes qu'il faut s'attaquer. La modulation est comprise, la généralisation n'est pas comprise et elle sera pas respectée.
Merci Daniel Quéraud.
Je voudrais répondre en ce qui concerne Nielsen. La gloire de Nielsen, elle est due aux automobiles clubs. Effectivement, ils en parlent constamment en disant que tout ce qui est scientifique, finalement, on jette une opprobre et on dénigre tout le côté scientifique. Mais heureusement qu'ils ne se sont pas encore attaqués aux demi de MV2 avec Leibniz, parce que là, c'est 1691. Alors, vous voyez bien qu'il y a quand même un argumentaire scientifique qu'on est obligé d'accepter si l'on veut comprendre ce qu'il en est de la sécurité routière. Maintenant, il y a d'autres problèmes. J'espère que nous allons les aborder.
Eh bien, on va les aborder tout de suite.
Juste une petite chose. Tout à l'heure, vous disiez quand même que vous redoutiez visiblement des concessions. Vous avez peur que le gouvernement pourrait prendre effectivement cette mesure, passer à 80 km/h, mais vous redoutez des concessions. Quel type de concessions, vous n'avez pas précisé ?
Eh bien, précisément, nous parlions tout à l'heure d'un lobby qui est extrêmement puissant, c'est le lobby des ponts qui tout simplement a cet argument absolument scandaleux puisqu'il n'est pas basé sur l'accidentalité, à savoir la route est belle, allons-y, laissons-la à 90 voire plus. Nous avons même entendu un argument absolument hallucinant, ils disent mais les accidents ont lieu dans des intersections. Nous avons immédiatement regardé ce qu'il en était des bulletins d'analyse des accidents de la circulation corporelle et nous avons vu que ces accidents d'intersection, eh bien c'était 12,8%.
Donc vous avez peur de poche à certains endroits?
Absolument.
Ça pourrait arriver ça à 90
km/h. Et nous voulons un 80 km/h appliqué sur l'ensemble des routes, les routes dont on a parlé précédemment, 380 000 plus 6 000, mais un 80 contrôlé et appliqué. C'est ça qui est tout à fait essentiel. Sinon, nous n'aurons pas le succès attendu.
Le Standard de France Inter, Brigitte nous appelle. Bonjour Brigitte, bienvenue et bonne année à vous.
Bonjour, bonne année à vous également. J'aurais voulu poser une question, à savoir quel est le pourcentage d'accidentés et de morts sur la route pour les deux roues, et puis quel est l'état des routes, je trouve, se dégrade. Est-ce qu'il n'y a pas des actions à faire ?
Chantal Perrichon.
L'état des routes se dégrade et nous savons bien qu'il y a une amélioration de l'accidentalité, parce qu'il y a eu des contrôles sur les comportements, la vitesse, mais parce qu'il y a eu également une amélioration en ce qui concerne l'infrastructure. Elle est lente et progressive, elle n'explique pas les ruptures brusques de l'accidentalité. De la même façon qu'il y a une amélioration pour la sécurité primaire et secondaire des véhicules. Il faut en tenir compte. Ce sont des éléments qui permettent de faire progresser l'accidentalité dans notre pays. En ce qui concerne les deux roues motorisées, vous avez raison de dire que c'est une population à haut risque, puisqu'ils représentent un pourcentage important du nombre de morts sur nos routes, alors qu'ils représentent environ 2% du trafic, mais il faut voir ce qu'il en a été des mesures prises pour leur protection. Nous avons obtenu l'obligation des gants. Mais c'est tout à fait insuffisant, bien évidemment. Nous espérons qu'un jour, nous arriverons à l'obligation des bottes, voire de l'airbag. Nous avons obtenu que les plaques soient un peu plus grandes, mais elles sont encore insuffisamment lisibles. Nous avons obtenu qu'il y ait un gilet rétro-réfléchissant. Oui, mais il est sous la selle et il n'est utilisé qu'en cas d'accident. Et paradoxalement, les motards, parce que c'est un groupe de pression extrêmement important qui a terrorisé le gouvernement précédent, ont obtenu la circulation interfile. Et vous savez ce qu'il en est de la circulation interfile. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats de cette expérimentation, car tous les experts, y compris ce terrain, ont dit que c'était extrêmement dangereux.
Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Bienvenue Chantal Perrichon, vous écoute.
Merci et meilleurs vœux à tout France Inter.
À vous aussi, évidemment.
Les techniciens, aux journalistes, aux animateurs, à tout le monde. Merci beaucoup. J'ai une petite question qui s'adresse au cerveau des Français. Limiter la vitesse sur les routes secondaires, principales, n'est-elle pas faite pour conduire les automobilistes vers les autoroutes pour apporter des clients à Vinci et autres groupes. Si la préoccupation principale était la sécurité, il faudrait que les autoroutes soient gratuites. Conduire les automobilistes vers les autoroutes, c'est aussi éviter l'entretien des routes secondaires et nationales dont vous parliez tout à l'heure. Je précise que je ne suis pas contre cette mesure ou une mesure de modulation si les autoroutes sont gratuites. Voilà, c'est ma question.
Est-ce que ce serait pas l'une des mesures les plus simples, Chantal Perrichon? Ce serait une mesure... plus coûteuses accessoirement aussi. Hein, mais...
c'est une mesure simple, mais je ne pense pas que les autoroutiers ne se défendent pas bec et ongle pour maintenir le prix des péages qu'ils nous proposent actuellement. Il a raison, ce monsieur, de dire qu'il risque
Patrice.
D'avoir... Patrice a raison de dire qu'il y a une probabilité de report de circulation sur les autoroutes. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons depuis des années qu'il y ait une baisse de 10 km/h sur l'ensemble des réseaux. Et nous aimerions que les autoroutes française passe à 120 km/h, tout simplement pourquoi ? Parce que la majorité des autoroutes européennes sont à 120 km/h. En Norvège, elles sont à 100 km/h. Donc on voit bien que là encore, il y aurait une baisse de l'accidentalité. Et pour tous ceux qui s'opposaient, par exemple, à la mise en place des radars en 2002, au moment de Jacques Chirac, il y avait vraiment un lobby qui était contre. Eh bien, nous avons vu une chute de l'accidentalité spectaculaire sur les autoroutes parce qu'il y avait des radars, alors que chacun sait que sur les autoroutes sont droites, que diable. Eh bien, elles sont 5 fois plus sûres que les autres routes. Donc, radar, contrôle sur les autoroutes, baisse spectaculaire de l'accidentalité, 50% dans les 2 années qui ont suivi.
Karine Bécard.
Moi, j'ai envie de vous emmener très très loin vers le futur. Vous en pensez quoi des voitures de demain, celles qui vont du coup peut-être rouler toutes seules? Est-ce que c'est une belle perspective pour vous parce qu'effectivement elles seront remplies de haute technologie et elles sauront percevoir les voitures qu'elles auront en face? Ou est-ce que c'est vraiment le danger absolu pour vous?
Vous avez raison de dire que ce sont des perspectives de demain. Moi, je dirais d'après, après, après demain.
Je suis pas certaine ça.
Tout simplement parce que regardez, il y a des technologies qui sont utilisées actuellement pour ces futurs véhicules autonomes. Il y a le LAVIA, le limiteur automatique de vitesse. Mmh. C'est une technologie qui est disponible depuis 2006. Nous n'avons jamais pu l'obtenir dans les véhicules actuels, tout simplement parce que les constructeurs s'y opposent. Comment vendre de belles voitures? Je ne donnerai pas les marques, qui sont extrêmement puissantes et inutilement
si
rapides.
Si elles sont bridées à 130.
Si elles sont bridées à 130. Mmh. Donc ce fameux LAVIA, nous ne l'avons pas. Mais il s'appelle ISA en ce qui concerne l'Europe. Mais il existe, bien sûr, sur un certain nombre de modèle, Ford par exemple, le commercialise. Nous avons demandé la boîte noire. Bien sûr qu'elle va être sur ces véhicules autonomes. Nous la demandons depuis des années et des années. Tout simplement parce que il est difficile pour les familles qui ont été victimes d'un accident de devoir ensuite faire la preuve qu'elles n'étaient pas responsables de l'accident.
Donc ces voitures ne plairont pas ?
Je ne dis pas qu'elles ne plairont pas. Je dis que nous déplorons que des technologies qui sont actuellement utilisées par ces véhicules ne nous sont pas données alors que nous allons encore attendre quelques années et que des vies pourraient être sauver. C'est ça qui nous insupporte. C'est de voir qu'on nous promet, on a des leurres devant nous en disant, mais attendez, vous allez avoir ces véhicules autonomes. Mais en attendant, les gens meurent. Aujourd'hui, vous allez avoir 10 familles qui vont voir un policier ou un gendarme arriver et leur dire que leur fils, leur femme ou leur mari est mort. Vous allez avoir 10 autres familles qui vont découvrir aujourd'hui qu'elles vont vivre avec une personne handicapée à vie. Amputés, tétraplégiques, paraplégiques, des grands problèmes en ce qui concerne les fonctions intellectuelles. C'est ça la réalité du quotidien. Les Français se mobilisent lorsqu'il y a un accident collectif. Nous avons des ministres qui se déplacent en masse. C'est pas ce que nous voulons. Chaque jour, il y a des familles qui sont meurtries à vie. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour qu'il y ait des mesures simples, des mesures qui fonctionnent, bien évidemment, qui soient mises dans les voitures. La boîte noire existe dans tous les véhicules américains et actuellement, le NHTSA les utilise en cas d'accident mortel.
Jean nous appelle au standard de France Inter. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Voilà. Bon, alors, je précise que je suis un bon conducteur moi-même. Allô, vous m'entendez ?
Oui, on vous écoute.
Je suis ravi, oui. Donc, je précise que je suis un bon conducteur moi-même. En tout cas, j'essaie. Je suis respectueux du code de la route, mais pour autant, je suis défavorable à la réduction systématique de la vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire parce que c'est une politique qui est trop systématique, brutale et répressive. Moi, je propose plutôt d'établir une carte des zones dangereuses et de limiter la vitesse à 80 sur ces zones-là. Et d'autre part, d'avoir une action éducative forte sur les autres facteurs de risque que sont le cannabis, le téléphone et la fatigue.
Chantal Perrichon.
Alors là, j'adhère totalement à ce qu'il vient de dire. Bien sûr qu'il faut des cartes de l'accidentalité. Bien sûr qu'il faut donner de l'information aux Français. Et là, ils vont découvrir que sur ces routes droites, ces belles routes, c'est là qu'il y a un maximum d'accidents. Nous, des études ont été faites sur plusieurs départements. Nous demandons depuis des années que la DSR fasse son travail.
La DSR,
et
pardon.
La direction de la circulation et de la sécurité et de la circulation routière. Ils ne font pas leur travail. Chaque département devrait produire ses cartes de l'accidentalité. Nous n'arrivons pas à les obtenir. Or, à chaque fois que des experts les mettent en place, nous avons la vérification que les itinéraires les plus circulés, ces belles routes droites, ce sont sur ces routes droites qu'il y a un maximum d'accidents. Il a raison de le demander.
Il a raison aussi quand il dit qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui sur la fatigue au volant, sur le cannabis au volant et pas seulement sur
l'alcool.
Alors
là, il a moins
raison. Sur les téléphones.
Alors, en ce qui concerne le cannabis, eh bien non, il n'a pas raison parce qu'il y a eu la réactualisation de l'enquête SAM stupéfiant accident mortel qui a été produite il y a plus d'un an et qui montre que le risque est identique au risque qui avait été établi en 2003. C'est-à-dire le risque est multiplié par 2 et c'est 4% de présence de cannabis dans les accidents mortels. C'est très loin derrière. La vitesse est loin derrière l'alcool où c'est environ, depuis des décennies hélas, 30% de présence d'alcool dans les accidents mortels.
Chantal Perrichon, encore un mot. Est-ce qu'il faut interdire pour vous les logiciels d'aide à la conduite qu'utilisent des millions de conducteurs en France, ces petits logiciels qui vous avertissent de la présence de bouchons, mais aussi de radars ou de policiers?
Moi, j'aime bien quand vous employez ce terme tout à fait sympathique, bien sûr, d'aide à la conduite. Non, c'est des aides pour signaler la présence du képi, tout le monde le sait. Enfin, c'est vraiment, on est dans une terminologie qui ne correspond pas à la réalité.
Il n'y a pas d'effet bénéfique, au moins par peur du gendarme, on lève le pied?
Bah, écoutez, ça veut dire qu'ils vont lever le pied au moment où ils voient le képi et ils réappuient sur le champignon 2 minutes
comme
après.
Comme pour un radar.
Bah, absolument. Donc on voit bien que ces avertisseurs sont interdits dans certains pays. Et rappelons que ces avertisseurs qui signalent les forces de l'ordre, elles ne sont pas uniquement là pour la vitesse, elles sont là pour l'alcool. Et là, on en a parlé, 30% de morts dues à l'alcool. Elles sont là parce qu'il y a eu un enlèvement d'enfants. Elles sont là parce qu'il y a eu un attentat. Et vous avez encore des abrutis qui signalent la présence des forces de l'ordre après un attentat. Donc vous voyez bien qu'il y a des technologies qui doivent être interdites. Elles le sont dans certains pays. Et malheureusement, en France, nous n'avons pas le courage de les interdire. Il y a également un autre point qui n'a pas été abordé, le téléphone. Oui. On nous dit en permanence qu'il faut durcir les sanctions.
La législation aujourd'hui, c'est oui au téléphone quand il y a un kit main libre, oui, uniquement un kit main libre.
Mais puisqu'on parlait du cerveau tout à l'heure des conducteurs, vous croyez qu'il est moins disponible lorsqu'il y a le Bluetooth, par exemple? C'est vraiment le même système. Nous avons été les seuls au Conseil national de sécurité routière à demander vraiment l'interdiction de toute communication téléphonique. Cela nous semble tout à fait essentiel. Et je vais vous donner un chiffre. Actuellement, qu'en est-il du contrôle pour la pratique du téléphone au volant? C'est un peu moins de 10 personnes qui sont sanctionnées par département et par jour. Je vous propose à la fin de l'émission d'aller avenue du président Kennedy et de regarder ce qu'il en est au bout de 10 minutes. Vous voyez bien que ça ne correspond à rien. Donc si on veut avoir des résultats, il faut mettre en place des lois, mais il faut voir ensemble ensuite si elles sont appliquées. C'est la seule façon de rendre les lois respectables, crédibles et acceptables.
Merci Chantal Perrichon. La réponse du gouvernement attendue à la mi-janvier dans le nouveau plan qui sera dévoilé par Édouard Philippe. Merci Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, d'avoir été ce matin au micro de France Inter. Il est 8h57.